Soir et à dimanche prochain. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va prendre Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. C'est incroyable, hein ? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est exactement ce que Emmanuel vient de lire. Alors, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé dans ce verset. C'est que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est magnifique. Quand on connaît le contexte, parce qu'il faut bien connaître le contexte de ce verset, en fin de compte, ce n'est pas Paul qui a fondé l'église de Colosse, c'est Epaphras. Et Paul, en fin de compte, il avait appris qu'il y avait des choses qui étaient dites dans cette assemblée par des faux enseignants. On dirait que c'était la mode en ce temps-là, qui en fin de compte enseignait que Christ avait été créé et qu'il était inférieur à Dieu, et qu'en fin de compte, la loi juive était plus importante que ce que Christ disait. Et bien sûr, de là est née l'épître de Colosse aux Colossiens. Alors si on reprend par exemple le chapitre 1, versets 15 à 16, c'est ce qu'a lu Emmanuel. Il leur dit exactement qui est Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Là, il remet bien en place l'identité de Christ. Christ vient d'en haut. Tout ce qui est ici sur terre a été créé par lui et pour lui. Là, il replace vraiment Christ à sa place. Alors, il exhorte les chrétiens de Colosse à demeurer en Christ, bien sûr, et surtout de ne pas s'attacher aux philosophies qui sont mises en place, à toutes ces choses qui en fin de compte, ternissent la parole de Dieu, ternissent la vérité. Et bien sûr, les chrétiens sont associés à Christ. Vous voyez, ils ne sont pas mis à part. Non, ils sont associés comme faisant partie de Christ. Et bien sûr, de ce fait-là, étant associés à Christ, ils n'ont plus à se soumettre aux lois, que ce soit des lois humaines ou des lois fondamentales, puisqu'ils dépendent de Christ. Et Christ est venu abolir la loi. C'est-à-dire qu'il était loi lui-même. Et bien sûr que s'ils continuaient à vivre de cette façon-là, c'est-à-dire à suivre la loi, la conséquence était terrible parce qu'ils auraient perdu leur récompense céleste. En fin de compte, il leur dit que si vous êtes ressuscité en Christ, et on va le voir, vous n'avez plus à vivre les choses terrestres. Mais vous devez vous attacher aux choses qui viennent d'en haut, qui n'ont pas été corrompues, qui sont la vérité, puisque vous êtes dans la vérité. C'est ce qu'il leur dit. Et ils doivent abandonner leur nature humaine, leur nature pécheresse. Et ils doivent revêtir la vertu et les vertus de Christ. L'Esprit de Dieu, en fin de compte, nous révèle la sérénité, la joie et la sécurité toute simple d'avoir sa vie cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Il faut déjà comprendre une chose, c'est que la sagesse habite avec Christ. Ça veut dire que tout ce que les chrétiens vont faire et tout ce qu'on va faire va être logique. C'est pas parce qu'on va à l'envers du monde qu'on est fou. Puisqu'on suit la vérité. Christ est la vérité. Alors de ce fait, on doit marcher en lui et s'enraciner en lui. Et si on regarde au chapitre 2 de Colossiens, au chapitre 2, versets 6 et 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Voilà ce qui est dit. On doit marcher en Christ et tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire va être issu de la vérité qui est en nous. Parce qu'en Christ, il y a la réconciliation en Dieu et ça vous le trouverez en chapitre 1, versets 15 à 20. En lui est le perfectionnement des croyants, chapitre 1, versets 28 et 29. Le croyant est donc appelé et doit marcher en lui. Chapitre 2, versets 6 et 7, on vient de le lire. Donc le croyant est non seulement mort en Christ, mais il est également ressuscité. Et c'est là où le point est mis. Ça veut dire que bien sûr, on est mort, notre ancienne nature est morte, mais on est né en lui, on est né de nouveau. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Si on est associé à Christ, ce verset est pour nous. Et vous trouverez ça en Romains, ces versets sont pour nous, en Romains chapitre 6, versets 8 à 10. Ces versets sont pour nous. Si on est mort en Christ, on est ressuscité. On est ressuscité pour Dieu. On n'est pas ressuscité pour vivre une vie sur terre. Notre espérance, ça doit être Christ revient. Et on le verra plus tard, pourquoi. Donc la première chose, c'est rechercher les choses d'en haut. C'est ce que le croyant, et ce que Paul demande aux Colossiens, rechercher les choses d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire rechercher? Ça veut dire chercher avec ardeur. Ça doit être l'objectif de notre vie. C'est, en fin de compte, vivre une vie conforme aux principes célestes et se soumettre à la direction de Dieu dans les choses terrestres. C'est-à-dire que je ne fais rien qui ne sorte des préceptes et de la pensée de Dieu. Je ne dois rien faire qui doit sortir de cette pensée-là. C'est-à-dire tout ce qui est compromission, tout ce qui est arrangement humain, je les jette. Parce que sinon, ça ne vient pas d'en haut. Et en fin de compte, je fais quoi? Je souille ce Christ qui est en moi. Je le blasphème. Notre centre d'intérêt, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Paul demande aux Colossiens. Votre centre d'intérêt, ça doit être Christ. Christ vivant en vous. On dit souvent, Seigneur, prends la première place dans ma vie. Et Paul nous a dit une fois, mais il y a quoi la deuxième? Il y a quoi la troisième? C'est pas ce qu'on doit dire, c'est Seigneur prend toute la place. Et la suite, on va le voir après, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur prend toute la place. En Éphésiens chapitre 4, verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il veut nous remplir. Il veut nous remplir des choses d'en haut. Il ne veut pas nous remplir des choses d'en bas qui salissent, qui nous éloignent de lui. Mais il veut nous remplir de lui, de son esprit. C'est ce qu'il veut faire ce matin. Le deuxième point, c'est ne pas s'attacher à celles, aux choses qui sont sur la terre. Ici, on a un impératif. C'est concentrer nos pensées. Quand je dis concentrer, c'est vraiment le terme adéquat. Parce que tout est fait dans ce monde pour qu'on s'éloigne de Dieu. À nous, chrétiens, de nous concentrer sur les choses éternelles et non les choses qui sont temporelles, les choses qui vont passer. En fin de compte, si on lit 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous, on les voit avec l'Esprit de Dieu, les choses invisibles, mais le monde autour ne le voit pas. Et nous, on doit s'attacher à ce que le monde ne voit pas, ce que le monde ne voit plus maintenant. C'est ce qu'a partagé Emmanuel. C'est l'amour, c'est le pardon, c'est le don de soi avec désintérêt, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire je me donne, mais en espérant ne rien recevoir en retour. Parce que si je commence à dire, ben oui, je fais ces choses-là parce que je suis chrétien, ça veut absolument rien dire. Mais absolument rien dire. Les choses que je fais doivent être naturelles parce que je demeure en Christ. Et Christ agissant en moi, c'est la continuité de l'œuvre de l'Esprit qui est dans ma vie. Parce que si je commence à dire oui, mais c'est parce que je suis chrétien que je fais ces choses-là. Je fais ces choses-là. Vous avez entendu? Il y a le vieil homme encore qui est là et qui nous dit, mais... Ben oui, en fin de compte, tu vois, le Seigneur t'a changé. Il te permet de faire ça aujourd'hui. Eh ben moi, je vous dis non. Moi, je vous dis, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de faire ça aujourd'hui. C'est pas nous, c'est la grâce de Dieu. Comme c'est la grâce de Dieu qui nous évite de violer, qui nous évite de voler, qui nous évite de faire toutes choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et bien sûr, j'en reviens à la même chose qu'a lu Emmanuel, puisque vous allez entendre les mêmes choses. Ne jamais oublier l'avertissement de Jean dans son épître. Chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que si j'ai l'Esprit de Dieu dans ma vie, je vois que ce que je rencontre est sale. Et dans ce monde, tout est sale. Il n'y a rien de bien. Tout est calculé, tout est préparé d'avance. Et le piège pour nous chrétiens, c'est de tomber dans ces choses. C'est très facile de tomber dans ces choses. D'autant plus si on n'a pas fait mourir ce vieil homme qui est encore en nous. Et ça c'est quelque chose d'impératif. C'est quelque chose où peut-être aujourd'hui, on doit se dire, mais en fin de compte, je ne suis pas allé assez loin dans les choses de Dieu. Parce que si je vais plus loin dans les choses de Dieu, je fais mourir automatiquement ce vieil homme. En Éphésiens chapitre 4, versets 21-24, « Mais vous, on parle de nous là, hein, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. » Il faut quand même être gonflé pour dire ça, hein. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité, conformément à Jésus-Christ, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit Jésus. Dans la parole, c'est marqué la vérité, mais que produit Jésus ? Ça sous-entend effectivement que si je déclare aujourd'hui que je suis mort et ressuscité en Christ, je produis la justice et la sainteté. Il faut faire très attention à ces versets-là. Extrêmement attention. Parce que si on a une vie qui est complètement l'opposé de ça, je blasphème Jésus-Christ. Et je le crucifie une seconde fois. En Christ, on n'est plus ignorant. Nos pensées ne sont plus vaines. Notre compréhension n'est absolument plus obscurcie. Pourquoi ? On vient de le lire. Parce qu'on a été instruit à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. C'est-à-dire qu'on a reçu un esprit nouveau, plus l'esprit du monde, qui nous faisait faire n'importe quoi, mais on a reçu l'esprit de Jésus-Christ. Notre intelligence est renouvelée. On comprend les choses d'en haut maintenant. On les reçoit et on agit en tant que tel. Dans Romains chapitre 6, on lit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant par Dieu en Jésus-Christ. » Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos mains, vos membres, comme des instruments de justice. C'est la même chose qu'a dit Emmanuel. Et on ne s'est absolument pas concerté. Alors il y a un avertissement ce matin. Il y a un sérieux avertissement. Notre vie ce matin, est-ce que c'est une vie remplie des choses d'en haut ? Ou est-ce que c'est une vie remplie des choses d'en bas ? Le croyant, qui était non régénéré au moment où il était encore des choses de la terre, était esclave au péché, complètement esclave, aveugle et sourd. Mais en Christ, si ce matin on dit qu'on est en Christ, notre vieil homme a été crucifié. Ce que nous étions a été crucifié. Et c'est là le fondement de la délivrance de l'esclavage du péché. C'est notre vie en Christ qui nous libère du péché. Notre vie en Christ. Et celui qui est mort en Christ est libre au péché. C'est-à-dire, comme dit le premier épître de Jean, on ne pratique plus le péché. Et ça, je l'ai déjà expliqué lorsqu'on a fait les études, lorsqu'on fait les études du mardi soir, du premier épître de Jean, il y a une différence entre pratiquer et péché. Pratiquer, quand on pratique le péché, c'est-à-dire qu'on est habitué à un péché, rien ne nous dérange, tout va très bien. Oh, mais peut-être qu'un jour le Seigneur va y toucher. Voilà, puis on continue. C'est ça, pratiquer le péché. Chuter, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme le gamin qui marche, il tombe. C'est ça, chuter. Ah, comme j'aime bien dire à cette église, c'est que est-ce que vous pensez que le Seigneur va arriver, va vous mettre un coup de pied, mais monstrueux ? Le Seigneur va arriver, il va dire, tiens, il nous relève. Il nous dit, j'ai vu ton péché. Va plus loin maintenant. Et on continue à marcher. C'est ça la différence entre pratiquer et chuter. Si on pratique, on ne reconnaît pas la vérité de Jésus-Christ dans nos vies. Et pratiquer, c'est tout, c'est le manque de pardon, c'est toutes ces choses qui restent et qui crée une racine profonde, extrêmement profonde. Elle est tellement profonde qu'elle grandit, qu'elle pousse, et on ne voit plus que cette racine. Résultat des courses, enlever le jeu du malin. Et Christ n'est certainement plus dans notre vie. Parce que Christ ne se mélange pas avec les choses du malin. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, pour résumer cette première partie, le croyant doit se dépouiller de sa vie passée, du vieil homme qui est encore en lui, qui, en fin de compte, qui corrompt sa vie par des choses trompeuses, par des pensées vaines, des discours inintéressants, blessants, tuants, parce qu'on peut tuer quelqu'un avec des mots. En Éphésiens 4, versets 17 à 19, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Les gens qui s'éloignent de Christ connaissent ces choses-là. Ils connaissent ces choses-là. Ils ont connu la vérité, et d'un seul coup, parce qu'ils s'opposent, moi j'appelle ça s'opposer à Dieu, tombent et chutent. Combien, malheureusement, des gens, il y a très longtemps, qui étaient dans cette église et qui sont tombés. Et aujourd'hui, ils sont à des années-lumière de Christ. Alors que si on est en Christ, on a vu tout à l'heure qu'on est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de savoir que l'œuvre de Christ dans notre vie enlève les écailles, enlève le voile, nous donne une vision nouvelle, celle d'en haut, et développe notre intelligence. Bien sûr, on ne parle pas d'intelligence humaine ici. Mais on parle d'intelligence spirituelle. On est capable de voir l'invisible, de voir ce que l'homme humain ne peut pas voir. On les voit parce que c'est la lumière qui éclaire ces choses en nous. Le deuxième point important, c'est que le croyant revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On est né de nouveau. On a été créé par Dieu. On n'est pas créé de façon humaine. Notre première naissance, issue de la racine mortelle d'Adam et Ève. Est-ce que vous avez conscience ce matin que vous avez été créé par Dieu? Vous êtes né de nouveau. C'est-à-dire que on est né selon la pensée de Dieu pour marcher dans une vie de sainteté, selon la vérité. Quand on dit la vérité, on remplace la vérité par Jésus-Christ, celui qu'on déclare comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Et cette vérité, on l'a revêtue en lui et qu'en lui. Ce n'est pas tous les tralala qu'on aura fait à côté, c'est Christ, notre vérité. Parce qu'il est lui-même la vérité. Ainsi, on est appelé chacun à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14. On a été fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience qu'étant né de nouveau, on a été créé à l'image de Christ? Est-ce que ça se voit dans nos vies? Est-ce que notre vie témoigne de ça? C'est important de vraiment considérer ces choses. Et c'est pour ça qu'on a été renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. C'est pour ça que tout ce qui venait d'en haut avant était masqué à nos yeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit la vérité. On voit Christ. Et on devrait être triste, malheureux de s'éloigner de cette vérité. On devrait pleurer, on devrait être à genoux quand on juge, quand on cherche les querelles, quand on divise, quand on ne suit plus le chemin, la vérité et la vie. On devrait être triste. Est-ce qu'on l'est? Ou est-ce que j'ai été touché? Est-ce que j'ai été blessé? Par un frère, par une sœur. En bref, est-ce que le vieil homme est encore présent dans nos vies ce matin? On va en revenir au texte, en Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je trouve ce verset magnifique. Votre vie est cachée. C'est-à-dire que le monde ne nous voit pas comme étant en Christ. Et merci. En Colossiens chapitre 2, verset 11, il est dit: Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On a abandonné notre ancienne vie. On a abandonné notre ancienne nature. On est mort au péché. Ben oui, si on a revêtu Christ, on est mort au péché, puisque Christ a fait mourir le péché. C'est ainsi que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça parce que Christ est en nous. Et le terme caché fait en fin de compte, allusion à la dissimulation, à la sauvegarde. C'est magnifique que notre vie est sauvegardée, elle est mise en sécurité avec Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas fantastique de considérer ces choses, que notre vie est mise en sauvegarde? C'est-à-dire qu'elle ne va pas connaître la colère de Dieu. En fin de compte, Christ est devenu maintenant notre vie. Il n'y a que lui dans notre vie. Même moi, notre moi, n'existe plus. On n'est plus touché par les paroles blessantes parce qu'on aime. Aimez-vous les uns les autres. On a l'impression que c'est quelque chose d'immense, de totalement impossible à faire. Aimer au-delà de tout entendement humain. L'homme est incapable de le faire. La nature de Jésus-Christ en nous est capable de le faire. Parce qu'on a revêtu Christ. Jésus a dit qu'il allait où le monde ne le verra plus. En Jean chapitre 14, 19, là, il s'adresse au monde, à ceux qui ont refusé de le croire. Là, je vais à un endroit où ceux du monde ne me verront plus. Ça sous-entend que nous qui sommes en lui, ben on le voit. Et comment on peut le voir? Mais par son esprit qui habite en nous. Le Seigneur nous met des évidences devant nos yeux. Il nous met des évidences, des choses que personne ne peut contester. Il nous arrive des épreuves, mais je ne comprends pas. Puis des semaines, des mois après, on se dit, mais voilà pourquoi. Parce qu'on a lâché quelque chose. On a mis sa vie en conformité. Et il fallait passer par ce désert. Et ça fait partie des évidences que le Seigneur met devant nos yeux. Mais s'il met ces choses-là, c'est qu'il nous aime. Et peut-être qu'à force de dire, ben, vous savez, s'affronter avec Dieu, de refuser toutes ces choses dont on a parlé, le pardon, l'amour, provoquer des querelles, provoquer des divisions. On s'oppose à Dieu. À un moment donné, il y aura les conséquences. Et les conséquences sont bien plus terribles qu'on imagine. Bien plus terribles. Le gage que nous avons, nous, qui sommes enfants de Dieu, c'est la résurrection. Ça veut dire que notre vie sur terre n'est pas qu'une simple vie. Vous imaginez? On est, on vit, on meurt. Ça serait triste, hein? Ça serait vraiment triste. J'espère que votre espérance, c'est la résurrection en Christ. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est en Jésus-Christ qu'a lieu la résurrection des morts. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 et 21. Donc ceux qui sont en Christ vont ressusciter. Ah ben ma vie, ça ne se cantonne pas qu'à je nais, je vis, je meurs. Ah, c'est formidable. En fin de compte, le verset, le clé que on a vu, sa vie est cachée avec Christ en Dieu, il est là. En 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, ceux qui sont morts en Christ et nous les vivants. Voilà la vie cachée avec Christ. Ça, le monde ne le sait pas, parce que c'est complètement idiot. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire « Ah ben moi, tu sais, je crois à la réincarnation. » Ah, moi, j'ai dit à une fille qui m'a dit ça, j'ai dit oui, moi je vais t'annoncer autre chose. Ta réincarnation, quand tu vas ouvrir les yeux, tu seras au milieu des flammes. C'est ça ta réincarnation. Et c'est pas que pour un temps, c'est pour l'éternité. Elle a fait des yeux ronds, elle est partie. Parce que ça ne correspondait pas à ce qu'elle pensait. Et le monde est comme ça. Le monde est aveugle à cette réalité. Que nous qui sommes en Christ, nous allons ressusciter avec Christ lorsqu'il va revenir. Et ça doit être notre espérance. Ça doit être le fait qu'aujourd'hui même, je mets ma vie en règle avec Dieu. C'est important. Et tout ce qui va contrecarrer, tout ce qui est encore du moi qui va sortir, est condamnable. J'aurai, comme vous, des comptes à rendre devant Dieu. Pour les choses que j'ai faites et que les choses que je n'ai pas faites. Si un jour je veux annoncer la parole de Dieu et que je n'ai pas trop envie, je ne le fais pas, et que cette parole aurait pu sauver la personne qui est devant moi, je vais devoir répondre à Dieu, même de ces choses-là. Le comportement que j'ai même au sein de l'Assemblée, parce que les gens souvent présentent une belle image devant l'Assemblée, puis quand vous les voyez au dehors, c'est le jour et la nuit. Mais même ces comportements qu'on a dans l'Assemblée peuvent être condamnables. Vous dites un mot. Tout ce qu'on dit doit être pesé devant la parole de Dieu. On peut tuer quelqu'un. Est-ce qu'on a conscience qu'on peut tuer quelqu'un? Ça va au-delà de la blessure. C'est tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans l'assemblée, qui a son cœur, qui commence à venir au Seigneur, vous arrivez, vous lui dites une parole, il quitte l'église. C'est ça les chrétiens. Je viens, je suis jugé. Même ça, voyez, vous tuez quelqu'un. Et on n'en a pas conscience. Hein. On n'en a pas forcément conscience. Et dès qu'on s'écarte du Seigneur, le diable vient. Approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. Dès qu'on s'écarte, le malin revient. et il va se servir de tout ce qui reste encore en nous, le vieil homme. Tout ce qui reste encore en nous, il va s'en servir. Après, on a le temps de pleurer. Hein. Donc les croyants vont paraître avec lui et nos corps corruptibles vont devenir incorruptibles. Vous imaginez? Hier, on a eu une discussion avec Arlette, elle se posait la question, est-ce que je vais tout voir? Est-ce que je vais voir ma fille? Est-ce que je vais voir ma mère? Je ne lui ai pas répondu parce que c'était la réponse, oui, on va se voir, mais glorifié en Christ. C'est ça notre vie cachée aujourd'hui. Cette gloire n'est pas visible sur terre, mais elle sera visible quand Christ va revenir. Notre corps sera glorifié comme lui a été glorifié. En 1 Jean chapitre 3 verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, comme lui. Est-ce que vous avez percuté qu'un jour on va être semblable à Jésus-Christ, saint, glorifié comme lui? C'est fantastique. En Colossiens chapitre 1 verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, ça veut dire qu'on sait que notre corps va être glorifié. On va être glorieux. Alors c'est pour ça que le monde peut nous insulter. Le monde peut railler sur nous. Le monde peut dire qu'on est des idiots, peut dire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'il veut sur nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La seule différence, c'est que vous et moi, on sera glorifiés en Jésus-Christ. Quelle nouvelle! Quelle nouvelle! Une réalité aujourd'hui dans nos vies, c'est que hier nous étions sans espérance et sans Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 12. On était sans espérance. Je nais, je vis, je meurs. Aucune espérance. On a reçu en lui une espérance glorieuse qui est Christ en nous. Si Christ habite en nous, si on a fait mourir ce vieil homme et que Christ a pris toute la place, l'espérance, ça va être notre corps glorifié et semblable à lui. C'est la parole qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la parole qu'il dit. La conclusion, j'arrive presque dans les temps, de nous-mêmes, José le dit souvent, il nous est impossible de plaire à Dieu. Impossible. En étant 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, « Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » C'est-à-dire que là, on a une décision à prendre. Est-ce que je veux dégager le vieil homme qui est encore en moi? Est-ce que je veux cesser les querelles? Est-ce que je veux cesser les divisions? Est-ce que je veux cesser les mots qui blessent? Est-ce que je veux cesser de tuer mon frère, ma sœur, le voisin, l'ami, par mes paroles? Si nous avons revêtu Christ et si Christ est dans notre vie, c'est son esprit ce matin qui doit nous témoigner que nous sommes enfants de Dieu. On doit le sentir dans nos profondeurs. Il n'y a aucune accusation qui doit venir. Si on a des doutes, c'est que le vieil homme est encore présent. C'est que le vieil homme commande encore nos vies. Est-ce que j'ai des doutes ce matin? Est-ce que j'ai des doutes sur le fait que, malheureusement, je me suis fait avoir? J'ai adhérer à la grande religion, la religiosité, qui m'a fait croire que, ben oui, en disant Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. Ou est-ce que j'ai vraiment... Je me suis mis à genoux devant le Seigneur, j'ai pleuré. Peut-être même pas, j'ai pas pleuré, j'ai pris conscience de mon péché, j'ai demandé pardon. Et j'ai dit au Seigneur, fais ton œuvre en moi. Que mon moi n'existe plus. Que mes paroles deviennent du miel au lieu d'être du vinaigre. Que mon cœur déborde d'amour. Ça va nous amener sur le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui va faire que notre vie cachée avec Christ en Dieu va être découverte lorsqu'il reviendra. Et rien d'autre. Vous savez, ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est important. J'irais presque à la limite, Dieu s'en fiche. C'est tout ce qu'on est en lui qui est important. Vous avez des gens qui font des œuvres magnifiques pour Dieu, mais sans Dieu. Il y a des gens qui font des petites œuvres, presque rien, balayer une église avec Dieu. Dieu s'intéresse à ça. Parce que ces gens le font avec amour. Parce que les gens, par ce geste, qui n'est pas un geste de gloire, comme peut-être moi aujourd'hui qui vous parle au micro, qui suis devant tout le monde. Il est peut-être plus attaché à ces personnes qui travaillent dans l'ombre qu'à nous, des prédicateurs. Ou alors à vous qui faites des œuvres. Moi, j'ai fait ceci. Moi, je fais cela. Et qui ne reflète en aucun cas Christ en nous. Peut-être que ce matin, on voit comme impossible la montagne qui est devant nous. Peut-être qu'on se dit, mais c'est pas possible ce que Pascal nous dit ce matin. Moi-même, je suis incapable. Et puis peut-être qu'à force d'écouter la vérité qui vient taper à notre oreille, ben on avance, on laisse tomber des choses. Vous savez, c'est comme l'armure de David qui a laissé tomber, puis on s'aperçoit qu'effectivement, on commence à monter. Et quand on arrive là-haut, on s'aperçoit que le plateau est immense. On s'aperçoit qu'il n'y a rien qui manque pour vivre et s'épanouir sur cette montagne. Parce qu'en 2 Samuel chapitre 22 verset 37, il est dit, le Seigneur élargit le chemin sous nos pas. Il élargit le chemin sous nos pas. Quand on voit réellement Jésus agir, dans nos vies, on ne doit pas douter. On ne doit pas douter. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus a dit. Jean 14, verset 1. Il faut jamais avoir l'esprit douté, troublé parce que Jésus agit. Peut-être qu'il n'agit pas de la façon qu'on croit être bonne, qui va nous emmener complètement des... Mais par des choses où on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas Dieu qui fait ça. Mais lui, il sait où on va aller. Il sait où on va se retrouver. Et il faut bien vous dire que chaque fois que vous avez une relation personnelle avec lui, il est là et il vous écoute. Il sait ce qui est bon pour vous. Et il vous donne en fin de compte sa paix. Sa paix de savoir que oui, aujourd'hui. Ben, tu es en moi, comme moi je suis en toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean 14, 27. Et cette paix, c'est la paix dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de n'avoir aucun doute sur notre future vie glorifiée en lui. Si je n'ai aucun doute sur ma vie glorifiée en lui, c'est que ma vie est cachée en Christ, avec Christ. En Dieu. C'est la réalité. On va prier. Seigneur, que ces choses soient révélées par ton esprit. Seigneur, qu'elles ne soient pas des paroles d'homme, mais qu'elles soient révélées par ton esprit, afin de faire naître une soif de ta parole, une soif de la vérité, une soif de régler sa vie devant toi. Seigneur, si notre vie est cachée avec toi, c'est que ma vie d'aujourd'hui n'existe plus. Je n'existe plus. Parce que c'est toi qui l'as remplacé. C'est toi qui vis en moi. Seigneur, que la puissance de ta parole puisse pénétrer nos os. Séparer, Seigneur, ce qui est bon en nous de ce qui n'est pas bon, Seigneur. Et jeter dehors, afin d'être brûlé, tout ce qui ne t'appartient pas, Seigneur. Seigneur, que ton esprit ce matin fait naître de nouveau ceux qui ont cette soif. Que ceux qui ont cette soif puissent connaître la plénitude de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de voir des miracles dans les vies autour de nous. Mais des miracles qui ont été opérés par ta parole et pas sur des choses naturelles qui dureront peut-être quelques semaines. Alors que si c'est toi qui changes la nature, c'est à l'éternité. Seigneur, fais ton miracle. Dans le nom de Jésus. Amen.